La santé, c'est l'affaire de tous.
Merci d'être avec nous, il est l'heure de parler santé sur Phare FM Montauban. Fidèle au rendez-vous, vous parlez santé, il est là, c'est le docteur Edmundo Pereira. Bonjour Edmundo, comment vas-tu aujourd'hui ?
Bonjour Laurent, très bien, et aujourd'hui on a des choses très intéressantes à discuter.
Et oui, ton invité d'aujourd'hui est anesthésiste, c'est le docteur Vincent Collange. Bonjour docteur.
Bonjour Laurent, bonjour Edmundo.
Vous êtes anesthésiste donc au Medipol de Lyon à Villeurbanne, avec un sujet qui coule de source, consultation d'anesthésie personnalisée et informatique. Quel chemin prendre ? Edmundo, docteur Collange, je vous laisse l'antenne.
Merci beaucoup Laurent. Déjà Vincent, un grand merci d'avoir pris le temps pour être avec nous à Phare FM. Aujourd'hui, on va discuter des sujets très intéressants, mais avant d'attaquer les questions, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ?
Donc je m'appelle Vincent Collange, je suis anesthésiste depuis une quinzaine d'années en libéral. J'ai fait mon internat et mon assistanat à Lyon où j'ai connu Edmundo en chirurgie cardiaque pédiatrique initialement. Et puis ensuite j'ai une activité en libéral qui est polyvalente parce que je suis dans une grosse clinique où il y a 25 ou 30 blocs opératoires avec une activité qui va de la neurochirurgie intracrânienne à la chirurgie cardiaque, en passant par la chirurgie de la main et puis tout le standard de ce qu'on connaît. Il y a juste la pédiatrie qu'on fait peu, mais voilà. Et donc moi j'ai gardé une activité à mi-temps entre la chirurgie cardiaque et l'activité polyvalente.
C'est parfait. De toute façon, d'ailleurs, je connais effectivement Vincent depuis l'époque qu'il est interne. Et Vincent, comme toujours, il était un très bon interne, un très bon anesthésiste, une personne que j'apprécie beaucoup. Voilà. Bon, on va attaquer les questions. Déjà, pour commencer, Vincent, c'est quoi le Ségur du numérique en santé ?
Alors, le Ségur du numérique en santé, c'est un dispositif de l'État qui a été créé pour inciter les éditeurs de logiciels à rentrer dans un cadre. Et donc, c'est comme une forme de subvention qui est donnée. Donc, il y a un cahier des charges qui est donné aux éditeurs de logiciels. Et si ces éditeurs de logiciels remplissent ce cahier des charges, ils touchent en fait une enveloppe financière. Et donc, l'idée, c'est que l'État fasse avancer les projets du numérique en santé. Et donc, c'est par cette carotte financière qu'ils font avancer les projets. Donc, le Ségur, c'est qu'un dispositif de financement.
D'accord. Et comment on peut s'assurer la sécurité des données de santé sur Internet ?
Alors, les données de santé en France et en Europe, elles sont très protégées maintenant parce qu'elles font partie du RGPD, Règlement pour la protection des données. Et du coup, en santé, donc on a une culture de la protection des données. Il y a deux choses, en fait, essentiellement hein, dans la protection des données. Il y a l'hébergement qui est au niveau des hébergements de données de santé. Donc ça, c'est assez cadré. Et c'est des normes en fait que doivent remplir les éditeurs de logiciels. Cet hébergement, il peut être physiquement, parce que quand on parle de données, en fait, c'est souvent un côté immatériel. Mais il faut bien savoir que ces données, elles sont à un endroit sur un disque dur, quoi. Même si c'est des gros entrepôts où ces disques durs sont physiquement présents. Et en fait, selon l'endroit où ces disques durs sont présents, et ben la législation locale est en vigueur. Donc c'est pour ça qu'il faut s'assurer quand même que l'hébergement soit au moins en Europe et mieux encore en France pour vraiment être sous le coup de la loi française. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut essayer de demander quand on est médecin ou quand on est patient et qu'on a affaire à des logiciels médicaux. Et puis ensuite, il y a autour de la sécurité des données, il y a aussi toutes les normes de sécurité qui sont là logicielles, c'est-à-dire comment on accède aux données pour faire simple, et comment on est sûr que si c'est le docteur Edmundo Pereira qui veut accéder aux données d'un patient A, c'est bien lui qui va accéder, et puis les données en fait auxquelles il a le droit d'accéder, parce qu'il a peut-être le droit d'accéder aux données qui sont intéressantes pour un anesthésiste, mais il a peut-être pas le droit d'accéder à d'autres données qui sont considérées comme privées. Et donc ça, en fait, c'est des dispositifs qui sont à l'intérieur des logiciels globalement, qui permettent de faire ça. Et donc aujourd'hui, il y a par exemple une promotion de l'État pour monter le niveau de sécurité pour ça. Donc on connaît tous par exemple les logins mot de passe. Hein, quand on a un logiciel qui est ouvert, il n'y a rien du tout. Ensuite, il y a un niveau avec un login et un mot de passe. Et en fait, maintenant, les normes modernes de sécurité, c'est en fait, si on veut faire l'analogie, c'est d'avoir un passeport. C'est-à-dire que vous avez un logiciel aussi qui va vous prouver que c'est bien Edmundo Pereira qui est médecin et qui veut accéder en fait à vos données. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un identity provider. On utilise malheureusement des mots anglais. Et donc il y a l'État qui s'occupe de gérer justement cette partie-là. Et donc il promeut des outils qui vont être soit pour le grand public. C'est ce qu'on appelle par exemple Pro Santé Connect. Vous avez peut-être entendu parler de ça, parce que c'est quand vous voulez accéder aux impôts par exemple ou à ce genre de service aujourd'hui de l'État, en fait on peut toujours le faire via Pro Santé Connect, et il y a un versant en fait qui est plus professionnel par rapport aux professionnels de santé. Et donc tout ça pour dire que c'est des normes de sécurité qui sont en train d'augmenter et qui vont arriver, mais qui sont pas encore implémentées, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours. La plupart des utilisateurs utilisent des logins mot de passe, et ça c'est de la responsabilité des utilisateurs, c'est-à-dire les médecins et les patients aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se renseigne en fait sur ces normes de sécurité pour comprendre les enjeux de la sécurité en informatique.
Comme on a beaucoup cette partie des données sur l'informatique, est-ce que tu peux parler un peu du dossier médical partagé, le fameux DMP?
Alors, le dossier médical partagé, c'est un projet de l'État qui est très ancien parce qu'il a plus de 10 ans et donc qui a un peu évolué au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, on va dire que c'est un projet qui arrive à maturité parce qu'on commence à en voir les usages juste maintenant. Et donc, pendant longtemps, ça a été quelque chose dont on a parlé, mais où il n'y a pas eu grand-chose de fait. Et depuis quelques années, en fait, l'idée de l'État, c'est d'ouvrir un maximum de dossiers. C'est-à-dire que si vous ne vous y opposez pas, en fait, en tant que patient, on vous crée un dossier médical à vous. Et ensuite, l'idée, c'est que c'est comme un peu un cloud, si les gens sont familiarisés avec ça. C'est-à-dire que vos données, en fait, de santé vont être dans un cloud qui est hébergé normalement en France par un hébergeur de données de santé français. Et donc il y a des règles pour accéder à ces données. Et donc quand vous êtes médecin par exemple, ben, si vous êtes chirurgien ou si vous êtes anesthésiste ou si vous êtes dentiste, et ben vous avez accès à certaines données du dossier médical partagé. Et par contre, ça permet quand vous avez des données médicales à renseigner, en fait, de les renseigner dans votre dossier médical et que ces données, elles soient transférées automatiquement, alors via des logiciels, aux professionnels en question. Et donc, ça évite de poser des questions qui sont toujours un peu les mêmes. Et donc, ça permet de gagner du temps. Pour nous, anesthésistes, on est très, très intéressés par ça, parce qu'en général, on est un peu les médecins généralistes de l'hôpital, hein, en anesthésie. Et du coup, comme on ne connaît pas spécialement les patients avant de les opérer, en fait, ben, on doit faire tout un travail qu'on fait lors de la consultation d'anesthésie. Donc, c'est pour ça qu'on est très intéressé d'avoir justement ces dossiers et ces informations de santé comme un peu un dossier médical qui serait partagé pour les professionnels de santé. Et donc ces informations, le patient aussi y a droit.
Bon, on a regardé d'une façon générale, on va un peu passer un peu à notre spécialité. C'est quoi l'anesthésie connectée et c'est quoi le dossier de patient informatisé, le DPI qu'on utilise à l'hôpital, mais aussi surtout en anesthésie?
Alors, donc quand vous allez, enfin là je me place du côté du patient, quand un patient il est pris en charge par son médecin il a un logiciel dans son cabinet qui lui est propre. Quand il va dans un établissement de santé, les professionnels de santé, ils utilisent tous le même logiciel parce que pour faire des prescriptions et accéder justement aux informations, qui était en fait l'équivalent avant du dossier patient papier qu'on avait des grandes armoires départ avec des dossiers qui grossissaient au fur et à mesure que les patients restaient dans l'établissement. Et donc maintenant, ces logiciels, il y a des logiciels qui remplacent ça, les dossiers papier. Et donc, c'est ce qu'on appelle un dossier patient informatisé. Mais ça, c'est du côté de l'établissement. C'est-à-dire que les établissements, il y a quelques éditeurs de logiciels qui font ce genre de service. Et donc, les établissements sont clients. Mais par contre, il n'y a pas qu'un seul logiciel. Donc, tous les établissements peuvent avoir des dossiers patients informatisés différents. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas ce qu'on appelle d'interopérabilité aujourd'hui entre les logiciels. Et donc, quand vous avez un dossier patient informatisé, tous les gens de la clinique, ou tous les médecins en tout cas, ont accès aux données du dossier patient informatisé. Mais par contre, les données, elles restent dans le logiciel de la clinique et elles ne vont pas être visibles par les autres professionnels de santé, que ce soit les médecins généralistes ou les autres établissements de santé dans lesquels le patient, par exemple, peut être transféré. Et donc, c'est pour ça que le dossier médical partagé, lui, se situe sur une autre couche, c'est-à-dire une couche qui n'est pas locale mais qui est générale et donc qui va recueillir ces données. Donc le client, si on veut, du dossier médical partagé, ça va être le logiciel du professionnel de santé, donc le logiciel du médecin généraliste ou le dossier patient informatisé quand on parle d'un établissement de santé. Et donc c'est ces logiciels-là qui vont fournir l'information au DMP ou qui vont venir piocher dans le DMP pour recueillir des informations. Donc ça, c'est le principe du dossier patient informatisé. Ce dossier patient informatisé, il a avant tout été créé comme un outil numérique, donc pour faire la prescription des médicaments au sein de l'établissement. Mais de plus en plus, on voit qu'il y a des fonctionnalités, on va dire intelligentes. On n'en est pas encore à l'intelligence artificielle, mais il y a des fonctionnalités intelligentes qui permettent d'augmenter la sécurité en fait des prescriptions et la qualité des soins qui sont dispensés dans l'établissement. Après, on pourra rentrer dans les détails si tu le souhaites, Edmondo.
D'accord. Et quels sont les enjeux du numérique en anesthésie réanimation ou au niveau des autres spécialités aussi, mais on va parler de l'anesthésie réanimation.
Ben, en fait, l'anesthésie réanimation, elle a une particularité justement, c'est qu'elle a un côté un peu généraliste, c'est-à-dire que quand on regarde un dossier patient informatisé, les anesthésistes sont souvent assez courtisés par les éditeurs de logiciels parce que les anesthésistes voient quasiment tous les patients de l'établissement et ils ont l'habitude justement de rentrer des données qui vont être assez standardisées. Et comme on voit, alors plus ou moins malheureusement, mais on ne voit pas toujours le même anesthésiste en consultation et au bloc opératoire et en post-opératoire, en fait, les anesthésistes ont l'habitude de standardiser les données médicales. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de communiquer les données médicales et de les, je dirais, qu'elles soient compréhensibles et qu'elles veuillent dire la même chose d'un professionnel à l'autre. Alors que si on fait l'analogie avec votre médecin traitant ou un chirurgien, il n'a pas forcément beaucoup à communiquer avec les autres et donc il va pouvoir avoir par exemple des abréviations qui vont lui être propres et qui va comprendre mais qui voudront pas dire grand chose si quelqu'un d'autre y a accès. Donc là, les anesthésistes, eux, ils ont l'habitude d'avoir un espèce de langage commun médical et c'est pour ça que les informaticiens, en fait, en comprenant ce langage, arrivent à le transcrire informatiquement et donc arrivent à numériser l'information médicale plus facilement. Et du coup, l'anesthésie, elle a un rôle important au niveau de la numérisation dans les processus de soins, notamment chirurgicaux, évidemment, puisqu'on ne fait pas encore d'anesthésie récréative. Mais comme il y a à peu près 11 à 12 millions d'anesthésies en France chaque année, et que globalement, les gens qui se font opérer sont souvent la partie la plus malade de la population, on voit que, je dirais, en quelques années, en fait, les anesthésistes ont vu l'intégralité de la population française quasiment. Et donc, c'est pour ça que c'est un enjeu et quelque chose d'important au niveau de, je dirais, du numérique et de la santé. Après, pour nous, anesthésistes, notre culture médicale, c'est la culture de la sécurité. Et donc, pour nous, l'intérêt du numérique, c'est surtout de pouvoir améliorer nos processus de sécurité et donc de pouvoir faire de la recherche scientifique, parce qu'aujourd'hui, la recherche scientifique, c'est toujours quelque chose de long et un peu fastidieux. Et donc, on espère qu'avec le numérique, on améliorera les choses et qu'on aura plus de finesse dans l'analyse, justement, des données des patients. Et puis, ça permet aussi d'avoir des indicateurs de qualité et de pouvoir savoir, justement, si on est bon, pas bon, et puis de sans cesse s'améliorer, d'améliorer nos processus de soins, parce que c'est un peu notre ADN, l'ADN de notre spécialité.
C'est vrai que tu as déjà touché un mot, mais est-ce qu'on peut dire que la numération en anesthésie en réanimation a apporté vraiment une amélioration de la qualité, de la sécurité, de la prise en charge des patients? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est admis, c'est connu?
Alors, ça dépend de quel point de vue on se place, parce qu'aujourd'hui, en fait, pour boucler avec ce qu'on disait tout à l'heure, le numérique, le Ségur du numérique, c'est surtout un dispositif qui a vocation à améliorer la qualité des logiciels. Parce que malheureusement, les éditeurs de logiciels, ils font en fait un logiciel, mais ils ne cherchent pas forcément à le rendre le meilleur possible. C'est vrai que nous, dans notre culture médicale, on essaye toujours de faire du mieux qu'on peut. Ce n'est pas toujours des valeurs partagées. Et donc, le principe, c'est d'avoir une carotte financière. Et donc, aujourd'hui, la carotte financière des éditeurs de logiciels, elle a été surtout orientée plutôt vers les infirmières, je dirais, c'est-à-dire sur la prescription et avoir un cadre de prescription qui soit bon. Donc à ce niveau-là, on a facilité les choses. Je pense que les infirmières ont des prescriptions qui sont de meilleure qualité, qui sont plus lisibles, et donc c'est un premier pas vers la qualité d'une manière générale. Mais nous, en tant que médecins, on a presque, je dirais, plus de contraintes aujourd'hui dans le numérique que de bénéfices. Mais on espère beaucoup pour l'avenir.
Et est-ce que tu peux parler un peu plus des atouts et des limites du dossier d'anesthésie informatisé? Tu as parlé plutôt effectivement des bénéfices, mais est-ce que tu peux toucher aussi s'il y a des limites?
Alors, les limites, elles sont multiples. On en a parlé quand même un peu avec la sécurité, parce qu'il faut toujours avoir conscience quand même que les données numériques par rapport aux données réelles, elles sont potentiellement accessibles à beaucoup de gens, et que, par exemple, si vous avez un cancer du côlon en cours de traitement, c'est pas forcément une donnée que vous avez envie qui soit connue par votre employeur ou la personne à qui vous allez acheter, faire un crédit ou je ne sais quoi. Donc, en fait, ça reste des données sensibles, et du fait qu'elles soient plus accessibles, il y a quand même ce risque-là. Et donc, on ne peut pas l'enlever. L'autre chose, c'est que les données numériques, il ne faut pas qu'elles remplacent en fait l'humain. C'est-à-dire que la médecine, un métier assez scientifique, le médecin, mais il a une part d'humain qui est importante, et donc on espère que le côté technique en fait va être amélioré par le numérique, mais que le côté humain finalement, le médecin aura plus de temps pour le côté humain et que ça améliorera aussi les choses à ce niveau-là. Mais le numérique en tout cas, est un peu antinomique du côté humain de la relation médecin-patient, et il faut pas que pour justement numériser tout, on en perde de vue le fait qu'il y a un patient et que c'est ça quand même qui est la chose la plus importante. Donc le numérique, ça doit rester un outil et ça ne doit pas devenir la chose la plus importante, quoi.
Et est-ce qu'il y a déjà au niveau du DMP, tu as parlé de ces médicales partagées, un volet interopérable de l'anesthésie-réanimation?
Alors, c'est une bonne question, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de mettre en place. Donc, moi, je fais partie du conseil d'administration de la Société d'anesthésie française. Et donc, on travaille dans ce qu'on appelle le groupe numérique de la Société d'anesthésie. On travaille justement, on a produit, en fait, un référentiel de commun, en fait. fait. Pour résumer les choses, on a défini un alphabet pour comprendre en fait les données médicales, et cet alphabet on l'a traduit pour je dirais, c'est comme si on l'avait traduit en anglais, donc on va considérer que l'anglais est la langue que tout le monde doit parler. Après, on peut en France parler le français, bien sûr, pas de problème, mais par contre on doit traduire le français avec l'anglais, c'est-à-dire que pour être plus clair, aujourd'hui votre éditeur de logiciel, quand vous êtes anesthésiste, il doit faire un travail de traduction, peu importe le langage qui est utilisé à son niveau, que ce soit du patois ardéchois ou breton ou du danois, il doit traduire ça en anglais. Et donc, c'est une métaphore, hein, c'est pas de l'anglais à proprement parler, mais le langage informatique, il est souvent un peu aride et on n'arrive pas toujours à le comprendre. Et donc, il y a un petit travail de traduction des médecins qui vont devoir faire ce travail. Et une fois que ce travail il est fait, et ben en fait, grâce au dossier médical partagé, le patient qui a vu un anesthésiste dans un établissement A pourra aller dans un établissement B, et via son dossier médical partagé, en fait, on pourra récupérer les données de la consultation d'anesthésie, et on pourra même récupérer les données de l'opération qu'il a eue, c'est-à-dire que s'il a eu des problèmes d'anesthésie, s'il a eu des intolérances médicamenteuses, ou enfin nous on a des problématiques très spécifiques à l'anesthésie d'intubation par exemple, s'il y a eu des problèmes comme ça, et ben ça suivra en fait le patient, et donc ça le suivra dans les autres établissements. Donc on peut dire que c'est typiquement un exemple qui améliorera la qualité de la prise en charge. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train, donc on a déployé toute cette architecture et maintenant on est en train de la mettre en place au niveau des établissements. Et donc les choses avancent toujours plus lentement que ce qu'on voudrait, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'être mis en place. Et l'anesthésie est la première spécialité à avoir fait ce travail, et donc on est plutôt en pointe par rapport aux autres spécialités médicales.
On dit que la France est très en retard par rapport à d'autres pays, et on a évoqué plusieurs raisons pour ce retard de développement de l'informatique, principalement au bloc opératoire. On parle des raisons financières, l'achat de logiciels, la formation du personnel. On parle de la partie technique, connexion du matériel et tout. Et on parle aussi, on peut même évoquer la question d'hygiène, la question de clavier, souris, bon bref. Est-ce que tu es d'accord avec ces moyens, avec ces explications, ou tu penses qu'il y a d'autres facteurs qui expliquent ce retard ?
Alors, oui, la France est en retard, mais il faut pas penser que dans les autres pays, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que d'une manière générale, moi, je dirais plutôt que c'est la santé qui est en retard par rapport aux applications qu'on utilise tous les jours sur notre smartphone. C'est vrai que quand on voit la qualité des applications qu'il y a aujourd'hui et la technologie qu'il y a derrière et ce qu'on a en santé, on est quand même toujours le parent pauvre. Et même quand on est aux États-Unis, il n'y a pas des choses extraordinaires qui sont faites aujourd'hui. Et donc, c'est sûr que c'est un problème financier, parce que la notion que les données de santé sont quelque chose d'important est quand même quelque chose de relativement récent, et que pour faire des logiciels de santé, on a besoin, en fait, le cadre législatif est beaucoup plus contraignant que dans toute autre spécialité, à cause de ces problèmes d'hébergement. On a parlé de l'hébergement de données de santé, mais à cause aussi de tous les processus de fabrication. C'est un peu comme tout le matériel médical. En fait, on dit toujours que quand on achète quelque chose et qu'il y a la notion que c'est pour un usage médical, eh ben ça coûte toujours beaucoup plus cher, parce que les normes de fabrication sont différentes. Et donc, pour le logiciel, c'est exactement la même chose. Donc, en fait, les logiciels sont plus chers, et comme on a mis du temps à investir sur le côté informatique dans les établissements de santé, eh ben évidemment, on est en retard par rapport à ça. Mais je dirais que c'est plutôt quelque chose de financier que de technique ou d'hygiène, parce que ça, on a quand même la possibilité de le faire, et on a des logiciels en France qui le font quand même depuis très longtemps. Mais par contre, l'usage avance, et on espère que des outils justement comme l'intelligence artificielle vont pouvoir aussi aider à améliorer tous ces processus.
Pour parler de l'informatique en général, comment tu vois le docteur Google, son action au niveau de transformation de la relation patient-médecin?
Alors là, on va faire de la prospective pure, hein, parce que j'ai pas de données scientifiques qui étayent vraiment ce que je vais dire. Mais à mon avis, on va aller de plus en plus vers une médecine qui va être de plus en plus personnalisée. C'est-à-dire que la force de l'informatique, c'est d'avoir une capacité de calcul et d'analyse de données qui est bien supérieure à un être humain. Et du coup, le fait d'avoir accès à des données, beaucoup de données par patient, va permettre de faire des recherches scientifiques qui vont être un peu différentes et qui vont nous permettre d'avoir des algorithmes qui vont nous donner des choses plus précises, c'est-à-dire qu'on va pouvoir adapter mieux les traitements, le type de, pour l'anesthésie par exemple, le type d'anesthésie qui va être recommandé en fonction des patients, le type de médicament qui va être utile, leur dose donc ça, je pense que c'est vraiment une chose fondamentale. La médecine personnalisée, c'est ce que va permettre à moyen terme, je dirais, le fait de le docteur Google, c'est-à-dire l'intelligence artificielle combinée au volume de données en fait qui sont actuellement disponibles pour les patients. Je sais pas si ça répond complètement à ta question, Edmondo.
Oui, ça a bien répondu. On va toucher un mot sur la consultation d'anesthésie, parce que la consultation, c'est une partie de toute la procédure de l'anesthésie. Si je sais que tu connais très bien, d'ailleurs, tu as écrit un bouquin très intéressant sur le sujet. On va pas parler de quoi sert la consultation d'anesthésie, mais comment le numérique peut améliorer la consultation d'anesthésie?
Le numérique, il peut améliorer la consultation d'anesthésie en calculant justement des scores de risque. C'est-à-dire que le principe de la consultation d'anesthésie, d'une certaine manière, ça va être de prendre les données du patient médical, donc de les recueillir, et puis en combinant les données du patient et la chirurgie dont va bénéficier ou subir le patient, ça dépend de quel point de vue on se place, on peut créer ce qu'on appelle une cartographie des risques, c'est-à-dire que on va pouvoir déterminer un niveau de risque cardiaque, un niveau de risque respiratoire, un niveau de risque de phlébite ou un niveau de risque d'infection. Et donc, en fonction de ces critères-là, on va avoir des attitudes qui vont être différentes, parce que on va pouvoir prévenir ces risques en ayant justement des actions ciblées, et c'est dans ce sens-là que on va arriver, je pense, de plus en plus à personnaliser à la fois les consultations d'anesthésie, mais aussi les parcours de soins chirurgicaux des patients. Alors moi, je parle de l'anesthésie parce que c'est ce que je connais, mais j'imagine que la réflexion, elle est plus large et que elle est la même dans toutes les spécialités. Mais nous, au niveau de notre consultation, c'est surtout la personnalisation des parcours de soins, parce qu'en fait, si on regarde la consultation d'anesthésie, c'est un peu le début du parcours de soins du patient, parce qu'il voit le chirurgien décide de l'indication, mais finalement, donc l'indication, le type d'opération, et après, la plupart des parcours de soins, ils sont quand même initiés par la consultation d'anesthésie, parce qu'il y a ce côté médecine générale, justement, et donc toute la prise en compte de toutes les autres pathologies, c'est à ce moment-là qu'elle est réalisée. Donc c'est au niveau de ça que pour le médecin ça va être mieux, et par contre pour le patient ça va être aussi beaucoup plus simple, parce que l'avantage du numérique, c'est qu'on peut donner des informations qui vont être beaucoup plus personnalisées pour informer le patient et aussi pour le guider dans ses actions, pour préparer son intervention au mieux, que ce soit au niveau de son alimentation, au niveau de son activité physique, au niveau de la gestion de ses médicaments, au niveau de ses prises de sang ou des consultations qu'on peut demander chez un cardiologue par exemple. En fait, on aura une meilleure enfin comment on pourrait dire, on pourra mieux guider les patients et mieux les accompagner dans leur préparation et puis ensuite leur leur suivi.
C'est vrai que le sujet est très intéressant, mais c'est vrai que le temps passe tellement vite qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission. Mais est-ce que toi, tu as des considérations particulières à faire, des sujets qu'on n'a pas abordés que tu penses que c'est important? Et si ce n'est pas le cas, comment tu vois l'évolution du numérique dans la santé et en particulier dans l'anesthésie et l'animation? Par exemple, est-ce qu'on peut se projeter d'ici à 10 ans comment on va être au niveau prise en charge anesthésique et le numérique?
Alors, à 10 ans, là, tu m'en demandes beaucoup.
Mais je sais que tu es capable de le faire.
Non, mais ce que je vous ai dit, c'est une vision qui est quand même à moyen long terme. Hein. C'est-à-dire que moi, je pense que les structures de soins, elles vont de plus en plus fournir des données et de plus en plus... alors moi, je suis plutôt scientifique dans mon approche, donc je pense qu'on va pouvoir faire des études scientifiques de plus en plus précises. Et l'autre versant, c'est que le résultat de ces études scientifiques, on va pouvoir aussi plus facilement le mettre en pratique. Parce qu'aujourd'hui, une des difficultés, c'est qu'il y a des choses qu'on sait, mais on a du mal à les mettre en pratique, en fait, pour tout le monde au bloc opératoire ou en consultation d'anesthésie. Et je pense que le numérique va nous aider à faire ça de plus en plus et puis nous libérer aussi du temps. Alors, les anesthésistes, c'est vrai, mais c'est vrai pour toutes les spécialités médicales. Je pense qu'on va avoir un peu plus de temps grâce à ces fonctionnalités numériques et que j'espère qu'on utilisera ce temps pour maintenir justement le côté humain de notre travail qui en fait toute la richesse, c'est-à-dire soigner mieux pour probablement toujours le même coût si ce n'est moins, mais avec plus de sécurité encore pour les patients.
Bon Vincent, un grand merci de toutes ces explications parce que c'est un sujet passionnant. Hein. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour venir donner tes connaissances, ton savoir ici à Phare FM. Tu sais que les portes de Phare FM sont toujours ouvertes. Si un jour tu veux revenir pour parler d'un autre sujet, tu es toujours le bienvenu. Et un grand merci, bravo pour le travail que tu fais au niveau de l'ASFAR pour effectivement cette mise en place du numérique en anesthésie et animation. Un grand merci à toi.
Eh bien, merci à vous, merci Edmondo, à toute ton équipe et à votre dynamisme qui est vraiment admirable. Voilà. À ton image, Edmondo. Laurent, je ne te connais pas assez, donc je ne peux pas dire. Voilà.
Ben, merci beaucoup, Vincent. Laurent, je te passe l'antenne.
Merci beaucoup, docteur Collange. Merci, Edmondo. Cette émission vous a plu, vous pouvez la réécouter ou la partager. Cette émission est disponible en podcast sur notre site www.farfm.com, rubrique La Santé, c'est l'affaire de tous.